إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la récitation et la lecture de Juz Tabarak, de la partie Tabarak. Nous en sommes arrivés à Sourate Nuh. A'udhu billahi al-sami'i al-alimi minash shaytani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Donc sourate Nuh, qui est une sourate mécoise, à 28 versets. Allahu Tabarak wa Ta'ala raconte dans cette sourate une partie de la mission de Nuh alayhi salat wa salam. Il commence en disant dans le sens de sa parole: en vérité, nous avons envoyé Nuh, Noé comme ils le traduisent, à son peuple en lui disant: avertis ton peuple avant que ne leur vienne un châtiment douloureux. Cette sourate ne compte que le récit de Nuh alayhi salatu wassalam en raison de la longue période qu'il passa parmi son peuple, 950 ans à les prêcher, 1000 ans moins 50 comme il est venu dans le Coran, pour les appeler à l'unicité, aussi du fait de la persévérance de Nuh alayhi salatu wassalam. Donc il les a appelés à vouer un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala et à abandonner l'associatrie et le polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe donc qu'il l'a envoyé à son peuple comme miséricorde pour eux et pour leur permettre de revenir sur leurs erreurs, de les mettre en garde contre le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala au cas où ils persisteraient dans leur mécréance et dans leur rejet. Et en faisant cela, ils mériteraient la perte éternelle. Nuh alayhi salatu wassalam, qui fait partie d'un des cinq meilleurs prophètes et messagers qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé, exécuta l'ordre de son Seigneur en allant vers son peuple. Et en leur disant, comme Allah ta'ala dit dans le Coran, dans le sens, il leur dit, « Ô mon peuple, je vous apporte un message solennel, c'est-à-dire un message évident dans ses mises en garde, dans sa clarification de la voie du salut qu'il a montré d'une manière et d'une façon claire et évidente. Il leur ordonna entre autres, adorez Allah, craignez-le et obéissez-lui. Ceci en attestant de son unicité et en lui réservant votre adoration, tout en vous détournant du polythéisme et des voies et des moyens qui mènent au polythéisme. Car si vous craignez réellement Allah tabaraka wa ta'ala, Allah vous pardonnera vos péchés et vous accordera le salut ainsi que l'obtention de la récompense de l'au-delà. Puis il a dit dans le sens, dans le quatrième verset, « Afin qu'il vous pardonne certains de vos péchés et vous laisse subsister jusqu'à un terme fixé. » C'est-à-dire qu'il va les laisser sur terre, jouir de cette vie, en les protégeant jusqu'à un terme fixé pour la subsistance de cette vie sur terre. Car la jouissance sur cette terre ne peut être éternelle, puisque la mort est inévitable pour tous. C'est pour cela qu'il a dit, car lorsque ce terme échoit, il ne saurait être différé, puissiez-vous le comprendre. En niant l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala et en rejetant la vérité, ils refusent justement de comprendre qu'il y a ce terme qui va arriver et qu'après ce terme, ils vont se présenter devant Allah tabaraka wa ta'ala pour être jugés. Ils refusèrent donc de répondre à son appel et à son message. Ils refusèrent de se soumettre à ses ordres. Aussi, Nuh alayhi salatu wassalam se tourna-t-il vers son Seigneur en lui disant « Seigneur, j'ai appelé mon peuple, je les ai prêchés nuit et jour. Mais mes prédications n'ont fait qu'accroître leur répulsion. » C'est-à-dire qu'ils se détournent de la vérité et ils refusent de l'accepter malgré tous mes efforts, malgré le fait que je les prêche nuit et jour. Mes prédications ne leur sont donc d'aucune utilité, car l'avantage des prédications est de voir ses buts et ses desseins s'accomplir, du moins une partie d'entre eux se concrétiser. Puis il a dit dans le sens, dans le verset 7, « Chaque fois que je les ai prêchés pour que tu leur pardonnes, c'est-à-dire à chaque fois ils répondirent à mes prédications par le rejet. Et s'ils avaient répondu à mes prédications par l'acceptation, tu leur aurais pardonné. Et ceci aurait été dans leur propre intérêt. Mais ils ont refusé et ils ont persisté dans leur égarement et dans le rejet de la vérité. Donc, à chaque fois que je les appelle pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, ils se sont couverts par leurs vêtements
ils se sont enveloppés dans leur manteau et ils se sont enorgueillis et détournés. Ils ont persisté dans leur égarement et ils se sont enorgueillis d'un orgueil énorme en rejetant. Et le fait qu'ils se voilaient avec leur manteau pour éviter de voir ou d'entendre la vérité s'exprimer et montrer leur répulsion et leur rejet aussi, c'était un moyen de montrer leur orgueil extrême dans leur mécréance et leur entêtement qui dépassait toutes les limites. Puis nous, alayhi salatu wa salam, a dit, dans le sens, je les ai à nouveau prêchés publiquement, c'est-à-dire au su et au vu de tout le monde. Je me suis adressé à eux tantôt en haussant le ton, tantôt en les entretenant secrètement. C'est-à-dire que Nuh, alayhi salatu wa salam, il a utilisé tous les moyens pendant 950 ans à essayer de les convaincre en public, en secret, en faisant tous les moyens possibles, en privé, en haussant le ton, en baissant le ton, par tous les moyens qui étaient en sa possession. Et il dit dans le sens, dans le verset 10, « Je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, c'est-à-dire en abandonnant vos péchés et en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de vous les pardonner, car il est plein de mansuétude. Il pardonne avec générosité à celui qui se repent et qui demande pardon pour ses péchés. » C'est ainsi que Nuh alayhi salatu wa salam essaya de les encourager à demander pardon à leur Seigneur avec ce que cela implique comme obtention de la rétribution et mise à l'abri du châtiment. Nuh alayhi salam leur rappela aussi les faveurs de ce bas monde pour celui qui demande pardon à Allah, qui se repent, qui demande pardon pour ses péchés, en disant dans le verset 11 et 12 et ce qui suit, « Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, c'est-à-dire qu'il fera pleuvoir sur vous des pluies salvatrices qui remplissent les fleuves et les rivières, qui revivifient les terres et les hommes. Il accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants, c'est-à-dire qu'il les multipliera. Il multipliera vos richesses qui vous permettent d'obtenir tout ce que vous voulez dans ce bas monde, ainsi que des enfants. Il vous assignera des jardins et vous assignera des rivières, c'est-à-dire les plus beaux plaisirs et les plus belles jouissances de ce bas monde. Qu'avez-vous à ne pas espérer en la magnanimité du Seigneur, quand il ne craignait pas sa puissance et quand il ne l'estimait pas à sa juste mesure, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il vous a créé par phases successives. Donc ça c'est le sens de la traduction du 13e et 14e verset. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé cet être humain, création après création, dans le ventre de sa mère, puis lors de l'allaitement, puis durant la phase de l'enfance, puis de l'adolescence, puis de la jeunesse, avant d'atteindre la maturité de la création. Ainsi, celui qui s'est distingué par la création et la disposition des êtres doit obligatoirement se distinguer par le fait qu'on lui voue l'adoration exclusive à lui seul sans lui donner d'associés. Dans ce rappel du début de la création de l'être humain, il y a une indication sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de ressusciter et est capable de la résurrection, subhanahu wa ta'ala. Car celui qui les a créés à partir du néant est capable de les recréer et de les ressusciter après leur mort. Il leur a démontré aussi sa puissance à travers la création des cieux, qui est encore plus importante que celle des hommes, en leur disant dans le sens de le verset 15, « N'avez-vous pas constaté comment il a créé sept cieux superposés, c'est-à-dire les uns sur les autres, les uns au-dessus des autres? Comment il a placé la lune comme une clarté et le soleil comme un luminaire? Il y a là une indication quant à l'importance de la création de ces corps célestes et à leurs avantages qui prouvent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grande bienfaisance envers les êtres humains. Par conséquent, Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, mérite d'être exalté, aimé, adoré, craint et espéré, subhanahu wa ta'ala. Puis dans le sens du verset 17, il dit « Ne vous a-t-il pas fait croître de la terre comme des plantes lorsqu'il a créé votre père Adam, alayhi salatu wa salam, alors que vous étiez dans ses reins ?» Nous savons qu'Allah a créé Adam, alayhi salam, de terre. Puis dans le verset 18, « Pour vous y faire retourner ensuite lors de la mort et vous en faire de nouveau surgir pour la résurrection et le rassemblement du jour du jugement dernier. » C'est lui donc qui possède le pouvoir de la vie, de la mort et de la résurrection, subhanahu wa ta'ala. « N'a-t-il pas établi pour vous la terre comme un tapis ?» dans le verset 19, c'est-à-dire qu'il a aplani la terre, qu'il a nivelé la terre, pour qu'elle soit à votre portée, afin de vous permettre d'y circuler par des voies spacieuses, dans le verset 20. Si Allah tabaraka wa ta'ala ne vous avait pas fait cela, il vous aurait été impossible de circuler sur la surface de la terre, de labourer la terre, de la semer, de la planter, d'y construire des habitations, d'y habiter et autres. Puis dans le verset 21, Allah ta'ala dit dans le sens, déçu de nouveau, Nuh dit, en se plaignant à son Seigneur de l'entêtement de son peuple et de son arrogance, « Seigneur, ils ont encore rejeté mon appel dans ce que je leur prêchais, et ils ont préféré suivre ceux dont les richesses et la progéniture ne font qu'aggraver leur égarement. » Ils ont désobéi au messager qu'Allah Ta'ala leur avait envoyé, qui venait pour leur apporter le bon conseil et leur montrer ce qui est bénéfique pour eux. Et ils ont délaissé le fait de suivre la vérité pour suivre qui ? Les nobles et les dignitaires dont les biens et la progéniture n'ont fait qu'accentuer leur perte. Et ceci est en toute époque. Aujourd'hui, les gens, ils préfèrent suivre les riches, les entre guillemets stars, les influenceurs et les influenceuses qui les mènent tous en enfer, au lieu de suivre le message du messager qu'il nous a laissé, alayhi salatu wassalam, qui est le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ceci se répète avec tous les messagers et en toute époque. Les messagers viennent avec un message qui appelle à l'unicité d'Allah, à son adoration, à son obéissance, aux vertus, à la moralité, à la pudeur, au fait de préserver les droits. Et les riches, les notables, les influenceurs, si on peut les appeler ainsi, de toute époque, c'est-à-dire les armées de Shaytan, les appellent vers l'enfer en leur donnant de mauvaises habitudes, de mauvaises croyances, de mauvaises voies, de mauvais conseils, de mauvaises formations, à toute époque, mais selon des moyens différents. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était avec la pression sociale, et après avec les réseaux sociaux, c'est avec le nombre de suiveurs, c'est la même chose. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens, dans le verset 22, « Ils ont eu recours à une exécrable perfidie, c'est-à-dire une grande perfidie dans l'entêtement et l'opposition à la vérité. Et on dit aux leurs, en les appelant à l'associatrie et au polythéisme, n'abandonnez jamais vos idoles. » Ils les ont appelés au chauvinisme et à l'attachement à leur polythéisme en n'abandonnant pas ce que suivaient leurs pères et leurs ancêtres avant de mentionner le nom de leurs idoles en disant « N'abandonnez ni Wad, ni Suwa', ni Yarouth, ni Ya'ouq, ni Nasr. » Cinq noms, Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr, qui sont le nom de personnes pieuses qui existaient auparavant parmi leur peuple. N'oubliez pas que le peuple de Nuh sont les descendants de Adam alayhi salatu wassalam. Au début, il n'y avait que des croyants parmi eux. Mais parmi les croyants monothéistes, certains d'entre eux ont commencé à faire des péchés, à se laisser aller, et d'autres ont été pieux, comme à toute époque. Parmi ces gens pieux, il y avait ces cinq noms, Wad, Suwar, Yarouth, Ya'uq et Nasr, qui étaient des gens pieux. Quand ils sont morts, Shaytan, Satan, est venu suggérer à leurs concitoyens de dessiner leur image aux endroits où ils avaient l'habitude de s'asseoir, pour qu'à chaque fois qu'ils passent à côté de ces endroits-là, en voyant ces images-là, ils se rappellent d'eux, ils se rappellent de leur dévotion, ils se rappellent de leur piété, ça les encourage eux-mêmes à être pieux. Au début, ça a commencé comme ça. Shaytan, Satan ne vient pas tout de suite te dire « Viens, adore autre qu'Allah ». Il vient avec des arguments fallacieux, en te faisant croire que c'est du bien, par l'innovation, pas à pas, pour t'emmener à ta perte. Donc c'est ce qu'il a fait avec le peuple de Nuh, c'est-à-dire ceux qui étaient avant le peuple de Nuh, et le peuple de Nuh qui ont continué à suivre ce chemin. Donc après, une fois que cette première génération qui n'adorait pas ces saints et ces images sont morts, donc au début ils ont fait juste dessiner leur image, ils ne les adoraient pas. Ils se sont donnés comme argument, à chaque fois que l'on passe à côté de ces endroits-là, en voyant ces images, on va se rappeler d'eux, de leur adoration, de leur dévotion. Cela va nous rajouter de la ferveur. Et cela va nous rappeler d'adorer Allah mieux. Puis après, quand cette génération est morte, Shaytan est venu suggérer aux générations qui succédèrent que leurs prédécesseurs adoraient ces statues, ces images, qu'ils les invoquaient, qu'ils leur demandaient d'intercéder en leur faveur pour avoir la pluie ou pour certaines choses. Alors, ces générations qui succédèrent ont commencé à les adorer en dehors d'Allah et à leur demander l'intercession. Et voilà pourquoi les dignitaires du peuple de Nuh demandèrent à leurs subalternes de ne pas abandonner leurs idoles. Puis dans le verset 24, dans le sens, Nuh alayhi salam a dit, alors qu'ils ont déjà égaré un grand nombre d'hommes, c'est-à-dire ces dignitaires et ces chefs, qui ont égaré par leurs mensonges, par leurs prétentions, beaucoup de personnes. Seigneur, fais en sorte que les injustes s'enfoncent davantage dans leur égarement. C'est-à-dire que si leur égarement devant mes prêches est justifié, ils ne font que s'enfoncer dans l'égarement par les allégations de leurs dignitaires et chefs. Aussi, il ne reste aucune chance de les voir revenir à de meilleurs sentiments et se réformer. C'est pour cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, mentionna leur châtiment et leur punition terrestre, ainsi que dans l'au-delà, en disant, dans le sens, dans le verset 25, et c'est ainsi que, en punition de leurs péchés, ils furent engloutis par le déluge qui les submergea, ensuite jetés en enfer. Leurs corps furent emportés par le déluge, et leurs âmes ont été vouées à l'enfer et au feu éternel. Tout cela en raison de leurs péchés, contre lesquels leurs prophètes les mettaient en garde, en leur rappelant leurs conséquences. Mais malheureusement, ils rejetèrent ce qu'ils leur prêchaient jusqu'à ce que le châtiment s'abatte sur eux, sans avoir pu bénéficier d'aucun secours en dehors d'Allah, comme Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset. C'est-à-dire que personne n'a pu leur apporter assistance lorsqu'ils subirent ce châtiment, car personne ne peut s'opposer à la décision et au décret divin, ainsi qu'à sa prédestination. Puis dans le verset 26, Nuh dit dans le sens « Seigneur, ajouta Nuh, ne laisse subsister aucun mécréant sur la terre, pour qu'il ne puisse pas se pavaner sur terre. » Et il mentionna la raison de sa demande en disant « Sans quoi ils égareraient tes serviteurs et n'engendreraient que des libertins grands mécréants. » C'est-à-dire que leur présence sur terre est un malheur absolu, un malheur pour eux et un malheur pour autrui. Si Nuh alayhi salatu wassalam a dit cela, c'est parce qu'après les avoir longtemps fréquentés et prêchés, 950 ans en train de les prêcher, et après avoir observé leur obstination et leur comportement, il en a tiré des conséquences de leurs actes. Allah subhanahu wa ta'ala a donc exaucé son invocation et il les a tous noyés dans le déluge, tout en sauvant Nuh alayhi salam ainsi que ses adeptes croyants. Puis il finit la sourate par le verset 28 dans le sens « Seigneur, accorde-moi ton pardon, ainsi qu'à mes pères et mères, et à toute personne ayant la foi qui pénètre dans ma demeure. » Il a commencé, après avoir demandé le pardon pour lui, à mentionner son père, sa mère et ceux qui entrent dans sa demeure en ayant la foi en vertu des droits qu'ils ont sur lui et sur la bienfaisance à laquelle ils ont droit. Puis après cela, il a généralisé l'invocation en disant, dans le sens, « Ainsi qu'à tous les croyants et à toutes les croyantes, puisses-tu, Seigneur, enfoncer davantage les pervers dans leur perdition et dans leur erreur, c'est-à-dire dans leur perte, leur confusion et leur malheur. » Ainsi s'achève Sourat Nuh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.